Une sieste sur la chaussée à Berlin. Des mains collées au macadam londonien. Des Parisiens enchaînés à des poubelles bricolées. Les défenseurs du climat inventent de nouveaux modes d'action.
Faut pas attendre de voter une fois tous les 4 ans. Vous pouvez sortir de chez vous et faire ce que vous pensez être juste.
Pour forcer leurs dirigeants à agir, des dizaines de milliers de personnes ont entamé lundi une révolte internationale. Ils ont rejoint le mouvement Extinction Rébellion, né il y a un an en Grande-Bretagne. Leur logo, un sablier, qui rappelle que le temps presse.
Greta Thunberg a parlé devant l'ONU et a dit « Où sont les adultes qui vont venir se dresser pour le climat ?» Eh bien, nous sommes ces adultes.
Un appel entendu à Paris, où des militants ont notamment organisé un campement place du Châtelet.
On a beaucoup fait de marches, on a signé beaucoup de pétitions. Actuellement, la désobéissance civile, c'est la meilleure arme qu'on ait pu trouver.
Le mouvement, sans hiérarchie ni porte-parole, est pacifique. Mais il revendique des actions fortes, comme le blocage le week-end dernier dans la capitale d'un centre commercial symbole du capitalisme.
On se rend bien compte que c'est pas possible maintenant de consommer sans fin et qu'il faut passer des paroles aux actes.
Une mobilisation de la jeunesse qui semble décontenancer le gouvernement.
C'est très important de se mobiliser pour le climat. Et puis, évidemment, moi, je ne peux pas non plus être d'accord s'il y a des actions violentes, des actions de blocage.
Alors, la désobéissance civile peut-elle être une arme efficace et légitime face à l'urgence climatique? Existe-t-il un compromis possible entre écologie et capitalisme? Faut-il passer de la transition à la révolution écologique?
On va voir. Le mouvement Extinction Rébellion est un écho au grand mouvement de désobéissance qui ont été menés par Rosa Parks ou par Gandhi. Jalynne Garde, est-ce que les fondateurs se réclament du mouvement de désobéissance aux États-Unis, par exemple? Est-ce qu'ils citent Martin Luther King?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est leur référence directe. C'est le mouvement des droits civiques, donc aux États-Unis, qui s'est battu pendant des années pour obtenir l'égalité des droits entre noirs et blancs. Aux États-Unis, et c'est vraiment la stratégie, c'est-à-dire la stratégie d'une désobéissance massive. Donc, violente, non violente, les mots sont très chargés, donc il faut peut-être prendre plus de temps pour en discuter. Mais en tout cas, dans le but de se faire arrêter, de se faire arrêter comme les militants des droits civiques se faisaient pour montrer que c'est ce niveau-là de sérieux. D'accord. Donc, c'est un gage de sérieux pour montrer à quel point ils sont déterminés.
Sur l'engagement.
C'est important.
Eddy Fougier, c'est la primauté de la conscience sur la loi et c'est dire nous faisons une action illégale, mais dans le sens de l'intérêt général, c'est ça ? Avec la prise de risque inhérente
général,
à cette action.
C'est ce que revendiquent effectivement ces militants et qui affirment qu'ils sont prêts à aller en prison. C'est aussi ce qu'auraient revendiqué, par exemple, les faucheurs volontaires à une certaine époque, avec cette idée, effectivement, que la...
Les faucheurs d'OGM, c'est ça, hein, quand c'était en France,
avec José Bové et les autres. La légitimité est supérieure à la légalité dans certaines circonstances. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron aussi quand il a fait référence au maire de Langouette, en disant que, finalement, il fallait un rapport
au
décret
sur les pesticides.
Pour faire bouger la loi, c'est quasiment officialisé maintenant.
On rappelle que la désobéissance civile a été théorisée au XIXe siècle, Jean Jouzel, hein, enfin par Thoreau notamment.
Oui, donc puis il y a eu quand même beaucoup de mouvements depuis. Bien sûr, on a peut-être tous. Enfin, j'étais encore jeune du temps de Martin Luther King, mais ça a été extrêmement, disons, efficace quand même. Bon, bien sûr, on remonte à Gandhi que vous avez cité. Il y a eu beaucoup d'efficacité à la désobéissance civile, et c'est pour cela que. Bon, personnellement, je comprends cette désobéissance civile, même si je ne m'y associe pas directement. Mais je comprends vraiment et j'en vois l'utilité.
Vous lui donneriez cette dimension historique
Historique, elle va se créer ou ne pas se créer.
C'est ça.
Effectivement, ça
a posteriori,
sur Rébellion, c'est un mouvement assez jeune, et donc la dimension historique n'existe pas encore. Je crois qu'une dimension historique, il faut que nous puissions prendre du recul.
Alors, précisément, chiffre du jour, combien sont-ils?
8000, c'est le chiffre du jour. Il y a 8000 militants en France d'Extinction Rébellion. Le mouvement a été lancé le 24 mars 2019. Il a été lancé en octobre 2018, il y a un an, au Royaume-Uni. Donc c'est un chiffre important. Ce n'est pas un chiffre considérable, mais c'est quand même un chiffre important. Eddy Fougier, comment on explique ce succès? Et est-ce qu'on peut établir un peu la sociologie de ces militants?
Alors, la sociologie, il y a des collectifs de chercheurs qui étudient notamment les marcheurs pour le climat. Donc, on sait à peu près qui sont ces individus qui participent à ces mobilisations, donc souvent jeunes, souvent éduqués, avec un capital culturel important et avec une conscience politique assez marquée, souvent dans une logique anticapitaliste et bien évidemment une conscience écologiste. Importante. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Bien évidemment, on est dans une logique d'urgence climatique aux yeux d'une partie de la population. Ce qui s'est passé cet été ou ce qui s'est passé l'été précédent avec des canicules, avec un certain nombre, les incendies en Sibérie ou en Amazonie, ont amené sans aucun doute un certain nombre d'individus à prendre conscience de l'urgence climatique.
Ouais. Et Jacques Lingard, est-ce qu'il y a aussi, il y a eu des affections des partis traditionnels et peut-être que ces jeunes gens se reportent justement sur ce mode d'expression et d'action et de militantisme.
Je trouve ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux depuis une vingtaine d'années, c'est que jusqu'à présent, le parcours un peu traditionnel d'un militant, c'était je milite dans un parti, dans un syndicat, dans une association, je fais des marches, des manifs. Au bout d'un moment, je suis confronté à l'inertie du système et peut-être, certains d'entre eux, je passe à une action plus contestataire. Là, on a quand même une génération de gens jeunes et parfois très très jeunes, hein, des lycéens, des collégiens, qui entrent en politique avec des actions de désobéissance.
C'est-à-dire directement sans passer par la case.
Il y a une forme de radicalité qui est très marquante, qui séduit beaucoup. Il faut bien voir que c'est quand même... Moi, je trouve qu'il y a une dimension historique dans ces mouvements aujourd'hui en France, dans la mesure où ils n'existaient pas jusqu'à présent. Hein, c'est l'année dernière qu'on commence à avoir des manifs de masse. Pour le climat, en France, on n'avait jamais eu ça auparavant. Donc c'est quand même très important. Et aussitôt, les mêmes, en fait, quasiment, ils se lancent dans des opérations de blocage, confrontés à la violence policière. Ce n'est pas le cas en ce moment sur la place du Châtelet à Paris. Ouais. On va voir comment ça évolue. Mmh. On a vu sur le pont de Sully, avant l'été, à quel point ils avaient pris quand même beaucoup de gaz
lacrymogène. Ils ont été gazés, gaz lacrymogène.
Donc ils se politisent quand même dans des conditions qui sont assez dures. C'est le mouvement aussi des Gilets jaunes. Il y a eu quand même quelques liens entre Gilets jaunes et climat. Tout ça pour dire que ça fait une génération militante. Moi, je pense qu'il y a un parcours politique qui la distingue de ce qui a précédé et qui est à la hauteur, pour moi, de l'urgence de ce que disent les scientifiques.
Jean Jouzel, vous la regardez comme la génération qui a enfin compris et entendu ce que vous disiez, ou vous considérez que la façon dont ils mènent le combat peut être contre-productif ?
Non, je pense que cette façon de mener le combat, et on pourra parler aussi de Greta Thunberg, est pour moi très constructive. En fait, nous répétons les mêmes choses depuis 30 ans sur cette urgence et... Objectivement, nous avons été un peu écoutés par les
décideurs politiques. Et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par les décideurs politiques,
puisque la convention s'est mise en place, la convention climat s'est mise en place, mais la réalité, c'est que les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais augmenté aussi rapidement que depuis les années 2000. Il faut bien se rendre compte de l'échec. Donc, cet échec de notre message, alors, bon, il y a une certaine écoute. Bon, elle est quand même liée peut-être à notre façon de communiquer. Cette communication, je dirais plus
notre,
forte.
Notre quoi ? Vous, le GIEC, oui, votre
moi-même,
génération ?
Moi-même, je me sens concerné. Oui, je pense.
Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ?
Non, je pense qu'on a fait ce que doivent faire les scientifiques, c'est-à-dire alerter de façon. Bon, je pense que collectivement, avec mes collègues, nous avons alerté les décideurs politiques.
Il y a eu des accords.
Nous allons vers les jeunes, nous allons vers les entreprises, nous allons collectivement, nous allons vers les médias, nous répondons. Je pense que nous faisons de la bonne science, donc le rôle du scientifique, disons. Dans notre discipline, nous sommes sortis de notre tour d'ivoire, c'est très clair.
Vous allez au feu.
Ensuite, on voit bien que.
Et pourtant,
Greta Thunberg
ou
Extinction Rebellion donne une autre dimension à l'écoute, même si le message ne change pas. Notre message n'a pas changé, ne s'est pas modifié. Il est effectivement plus clair parce que le réchauffement climatique, il est perceptible. Ça, c'est une chose.
C'est un changement.
Mais il est aussi plus visible parce que, je crois qu'on a manqué une Greta Thunberg il y a 20 ans. C'est très clair.
Il y a une incarnation, donc, Eddy Fougier. C'est tout simplement une question d'incarnation. Et pourtant, ce mouvement refuse l'incarnation. C'est ça, le paradoxe.
Non, mais à un moment donné, effectivement, il y a eu, par exemple, le mouvement altermondialiste, il y a 20 ans. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée qu'il y a une génération qui était jeune à l'époque, à Seattle, et qui a tout de suite commencé par la désobéissance civile sans nécessairement passer...
Il y a eu des syndicats à Seattle.
Il y avait des syndicats, mais il y avait beaucoup de...
Ce n'est pas le cas du tout.
Il y avait beaucoup de jeunes qui se sont inscrits tout de suite dans cette logique de désobéissance civile, avec les syndicats à côté et avec d'autres mouvements. Mais à ce moment-là, la question du changement climatique n'était pas à l'agenda de ces mouvements. Et il n'y avait pas de conséquences d'impact direct sur ces individus qui visaient plutôt la mondialisation, le libéralisme, le néolibéralisme.
Alors, on va s'intéresser au fondateur de ce mouvement, Extinction Rebellion, mouvement anglais, il est britannique, Simon Bramwell. Thibault lui prend la tête et lui rendra.
Prise de tête. On leur prend mais on leur ment. Simon Bramwell, 46 ans, activiste, écologiste, non-violent, britannique. Je suis Simon Bramwell, cofondateur avec deux acolytes de XR, Extinction Rebellion, le mouvement écolo de désobéissance civile qui vous fait chier un peu, mais veut sauver vos vies beaucoup. On bloque des lieux, quelques minutes, on arrête et on reprend.
Mais pousse-toi le hippie là, avec ta barbe et ton vélo, qu'est-ce que tu veux ?
Nous exigeons la transparence sur le climat, la neutralité carbone, une assemblée citoyenne pour les politiques environnementales.
Il n'y a que des fonctionnaires et des profs de yoga dans ton truc, je suis sûr.
Mais pas du tout, ma mère célibataire était infirmière et je suis ancien ouvrier du bâtiment. Alors... En 2015, on n'a pas réussi à empêcher la construction d'un dépôt de bus sur des terres fertiles, ni une troisième piste à l'aéroport d'Heathrow.
Bah encore heureux, moi je prends l'avion comme je prends le taxi. Et en business.
Alors on a pensé à quelque chose de plus punchy pour se faire entendre. Il y a un an, on a lancé une déclaration de rébellion à Londres. Et en avril, je me suis englué au QG de Shell.
Bah moi aussi je suis attaché à Shell, j'ai la carte avantage. Et je fais le plein moins cher.
J'ai connu le réveil avec la barbe gelée. 3 heures sans bouger, coincé dans une fosse à serpents. J'ai boité 10 kilomètres avec une cheville cassée et j'ai mangé du blaireau. C'est dégueulasse.
Moi, j'ai mangé du rhinocéros et de la girafe dans un safari. Délicieux.
Mais moi, je suis moniteur de stage de survie. J'ai déjà disparu 19 jours, donc j'ai peur de rien. Et si la prison ne m'enchante pas, pour la planète, j'irai.
When I look at that, in regards to where we're going, I'm way more terrified of not going to jail at the moment. Way more terrified.
Gandhi, c'est mon modèle.
Eh ben moi, mon modèle, c'est Range Rover.
Merci Thibaud Nolte. Vincent.
Et Jeanne Lingard, la collapsologie qui accompagne un certain nombre de ces combats peut avoir l'avantage de faire prendre conscience du problème, mais peut avoir le très grand inconvénient de faire penser qu'il n'y a plus rien à faire, puisque si c'est fichu dans les 30 ou 40 prochaines années, c'est déjà trop tard.
Oui, oui, non, mais c'est sûr, le sujet de l'effondrement, il est complexe parce qu'effectivement, il a cette ambivalence politique. Mmh. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire, à la fois, il est très frappant. Donc, on voit bien extinction, rébellion. Mmh. Donc, c'est, à mon avis, la radicalité
des. Avec un sablier.
Elle vient aussi de là. C'est-à-dire, c'est la conscience de la fin d'un monde. Mmh. C'est-à-dire que voilà, la fin d'un monde et cette notion d'arrêt de monde, de fin de monde est très présente dans les communications d'extinction, rébellion. Et en même temps, le risque, c'est à la fois la fatalité, l'inaction, mais c'est aussi, je veux dire, un regard très occidentalo-centré, c'est-à-dire c'est l'idée que oh là là, nous, attention, on risque de s'effondrer, comme si énormément de civilisations et de peuples dans le monde n'avaient pas déjà connu des effondrements et des disparitions de civilisations. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette notion d'effondrement a été extrêmement discutée, très popularisée. Aujourd'hui, elle est très critiquée. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, on avance pas mal et plutôt autour d'une discussion de critique de la transition énergétique, d'une demande de rupture, d'une demande d'action très rapide, revendication d'extinction rébellion. La première, c'est baisse drastique des gaz à effet de serre.
Le temps de l'action, c'est ça la question clé ?
Oui, bien sûr, le temps de l'action. Sur la collapsologie, nous avons. J'ai co-signé récemment avec des collègues, Alain Grandjean.
Oui.
Voilà, Isabelle Delannoy.
Une tribune dans le monde.
Une tribune, oui. Et donc, on mettait dos à dos la. On renvoyait dos à dos la collapsologie, le climato-scepticisme. Ils partagent quelque chose quand même. C'est-à-dire, si vous êtes climato-sceptique ou collapsologue, c'est l'idée que vous ne pouvez plus rien faire.
C'est ça. Hein,
donc, c'est ça l'acte.
Et vous,
non, mais Donc, ce qui m'a marqué, donc, en fait, nous avons interagi, y compris avec Pablo Servigne, donc on discute
beaucoup. Qui est le leader des collapsologues.
Le problème, pour moi, il y a vraiment un problème d'échelle de temps dans la collapsologie, mais je ne veux surtout pas diminuer, donner l'impression que les conséquences du réchauffement climatique pour les jeunes d'aujourd'hui, à la fin de ce siècle, sont vraiment très importantes. Ce qui m'a marqué vis-à-vis des jeunes, je ne veux pas être trop long, mais j'ai fait une conférence à Thésée il y a à peu près fin août, et en fait, classique sur le changement climatique, il y avait 500 jeunes. La moitié des questions a porté sur l'effondrement, la collapsologie. Donc les jeunes sont extrêmement motivés. Mais je suis allé voir ces jeunes après, et certains m'ont dit, je suis collapsologue, mais j'agis. Donc ça m'a un peu remonté le moral.
Et d'ailleurs,
voilà, j'ai fait.
Et ça a été possible pour la réduction du trou dans la couche d'ozone. Voilà. C'est ce que vous écriviez dans votre tribune. Faites-nous écouter quelqu'un, Vincent, s'il vous plaît.
Oui, parce que le gouvernement...